Bonjour et bienvenue dans The Storyline, le podcast qui part à la rencontre des experts du storytelling et des créateurs de contenu. Je suis Noémie Kempf et deux fois par mois, j'invite un ou une experte du storytelling et du marketing pour décrypter les stratégies qui font le succès et la désirabilité des marques. Chaque épisode se concentre sur un cas d'usage concret ou une industrie spécifique. Si vous souhaitez aller plus loin, The Storyline, c'est aussi deux fois par mois une newsletter qui reprend le sujet abordé durant l'interview et l'approfondit. Dans la newsletter, je vous offre des outils, des ressources et je vous partage des références qui vous permettront de creuser les sujets qui vous intéressent. Je vous invite donc à vous y inscrire à l'adresse thestoryline.substack.com. Aujourd'hui, on se plonge au cœur de l'économie des créateurs avec Gaspard G, youtubeur suivi par près de 800 000 abonnés et CEO d'Intello, la première agence dédiée aux créateurs d'edutainment. Ensemble, on discute de cette économie en plein essor, de ses contours, de ses acteurs et de la manière dont les médias et les entreprises peuvent adopter ces codes pour se développer. Bonne écoute ! Salut Gaspard !
Salut Noémie !
Bienvenue dans The Storyline !
Merci beaucoup, merci de m'accueillir.
Merci à toi de m'accueillir dans tes bureaux parce que je te dis bienvenue dans The Storyline, mais finalement c'est moi qui suis chez Intello aujourd'hui et je découvre vos bureaux à Paris qui sont très chouettes.
Merci beaucoup. Oui, c'est vrai, c'est un peu un double accueil. Tu m'accueilles dans ton espace numérique et je t'accueille dans mon espace réel.
Exactement. Échange de bonnes pratiques.
Exact.
Pour un échange au sommet, j'ai hâte de commencer et d'en savoir un petit peu plus sur Intello et tout ce que tu as pu construire depuis quelques années. Est-ce que, avant ça, tu peux nous parler un petit peu de toi, de ton parcours et de tout ce qui t'a amené finalement à créer Intello ?
Écoute, ouais, avec plaisir. Je m'appelle Gaspard déjà, j'ai 26 ans depuis une semaine. Ça fait déjà une semaine. Il faut que je me fasse au fait, tu vois, de passer sur l'autre phase de la vingtaine. Ce qui est quand même une phase qui n'est pas anodine pour moi, parce que j'ai toujours été le jeune qui fait des trucs. Et je considère qu'à partir de post-25 ans, ouais, t'es plus vraiment le jeune qui fait des trucs, t'es un actif, un adulte, voilà, qui fait des choses. Et c'est normal de prendre ta vie un peu en main.
Et finalement, il y en a des plus jeunes que toi qui arrivent.
Exact.
Attends de passer la trentaine. Hein. Je t'y attends et tu verras, c'est encore plus difficile.
Je regarde ça avec attention. Et puis à la fois, c'est passionnant parce qu'il y a des nouvelles pratiques. Tu vois, je pensais un peu naïvement qu'à partir de 25 ans, j'allais faire un peu le tour des pratiques que j'allais pouvoir apprendre dans mon industrie, surtout que c'est un milieu dans lequel j'évolue depuis que j'ai 12 ans, mais je t'en parlerai. Et en fait, pas du tout, puisque tous les petits mecs et les petites nanas de 18 ans, ils arrivent avec des nouvelles pratiques. Il y a TikTok, par exemple, en ce moment, qui est une espèce de tonalité, une écriture que personnellement, en tant que créateur de contenu, je ne maîtrise pas du tout. Et qui, en matière de communication de boîte aussi, doit être un terrain de jeu. Donc voilà, mais pour revenir un peu à cette petite présentation, ce petit pitch, j'ai 26 ans, je m'appelle Gaspard, je suis originaire du nord de la France. J'ai grandi une bonne partie de ma vie à Montréal, au Canada. Voilà, pendant quelques 6 ou 7 ans, parce que mes parents sont expatriés. Donc du coup, j'ai toujours vécu un petit peu comme ça, accroché à mes parents qui bougeaient. Et c'est toujours le cas aujourd'hui, sauf que moi, j'ai décidé de me poser à Paris en 2020 et de faire quelque chose que j'avais démarré en fait depuis que j'ai 10-11 ans. C'est une vraie passion pour la vidéo que j'ai eu la chance de développer sur YouTube. J'ai grandi en étant un adolescent un peu particulier parce que j'étais un ado suivi sur les réseaux sociaux. Mais ça s'imitait à des vidéos sur YouTube qui parlaient de moi, qui étaient un peu du lifestyle de ce gamin qui grandit dans un contexte un peu particulier, celui de l'Amérique du Nord, en faisant constamment des comparaisons entre ma culture de base, qui est la culture française, avec ce que je pouvais connaître là-bas. J'ai vécu un peu à San Francisco, beaucoup à Montréal. Et puis voilà, grâce à cette expérience un peu hors norme, j'ai pu avoir une petite audience d'à peu près 150 000 abonnés sur YouTube.
Pas mal.
Voilà, et que j'ai décidé de développer après 5 ans d'études à HEC Montréal, où j'avais la possibilité de prendre un CDI dans une grosse boîte de pub. Et finalement, la boîte de pub, je me suis dit que j'allais la faire moi-même parce que je trouvais que j'avais été en stage pendant 6 mois. J'étais hyper inspiré. Et d'un autre côté, je ne me trouvais pas, à 18 piges, ce qui est quand même assez arrogant, je ne me trouvais pas si différent en termes d'apport créatif et d'apport business que le patron. Et je me suis dit, pourquoi pas ?
J'adore, pourquoi pas ? Quelle audace. Pourquoi pas?
Non, mais c'est à moitié de la souciance, à moitié de l'arrogance. Je sais pas trop où se place cette confiance un peu artificielle que tu te crées à la sortie de l'adolescence.
Ouais.
Mais pour certains ados, elle est plus forte que d'autres. Et j'ai pas mal de copains aussi dans mon entourage, et je pense que c'est un peu un biais de ce métier, c'est que tu traînes avec des gens qui sont un peu originaux, un peu différents. Alors, c'est pas forcément des entrepreneurs, mais c'est important parce qu'en plus de ça, je pense que ça va de biais avec cette présentation. Je suis entouré aujourd'hui d'amis à Paris qui sont tous un peu... En fait, j'aime cultiver un peu l'extraordinaire, mais pas l'extraordinaire en mode l'extraordinaire, mais l'extraordinaire.
Oui.
J'aime les gens différents. J'aime les gens qui cultivent cette différence. Et du coup, voilà, j'ai la chance d'être formidablement entouré par des gens qui sont des artistes, des philosophes, des rabbins, des... et ça va, c'est très, très différent à chaque fois. Des entrepreneurs, évidemment, des créateurs de contenu, mais pas beaucoup, en vérité.
Ouais.
Et j'aime ça, j'aime les gens différents. Et c'est pour ça que j'aime les gens qui portent cette différence. Donc, je suis très heureux d'être avec toi aujourd'hui pour pouvoir en parler.
Génial. Donc du coup, tu décides finalement de ne pas rentrer en poste à la sortie de tes études et donc de lancer ton propre projet. Et quel est-il ?
Eh bien, cette boîte s'appelle Intello. En fait, en 2020, je décide de me lancer à mon compte, j'ai 18 mois de savings, d'épargne sur mon compte en banque. Et ces 18 mois, alors je ne l'avais jamais dit, mais maintenant, je pense qu'il y a prescription, donc je peux le dire. J'ai touché ce qu'on appelait la PCU. Alors, la PCU, ça ne parle pas du tout aux Français. Et là, il y a peut-être quelques Québécois qui t'écoutent, qui se disent « OK ». Et la PCU, c'est un équivalent d'aide, ça s'appelait la prestation canadienne d'urgence.
Ouais.
Et c'était pendant la Covid. Et donc, si tu veux, on touchait tous un espèce de minimum chômage.
D'accord.
Et comme j'avais été actif pendant mes études, parce que je travaillais à côté de mes études, j'ai eu ce salaire minimum.
Ouais.
Voilà. Et en plus de ça, j'étais boursier sur ma dernière année. Ce qui a fait que j'ai rien dépensé et j'avais à peu près l'équivalent de 7 000, 10 000 euros, peut-être un peu plus même, je ne me souviens plus exactement. Et en fait, j'avais calculé un petit peu qu'en faisant quelques missions et en me démerdant un peu correctement, ça allait pouvoir me permettre de tenir. Bon. Et donc, mon objectif, c'était de me dire, je me laisse 18 mois,
ouais.
18 mois pour que ça marche, et je décide de monter cette boîte qui s'appelle au départ Ask Gasp. Ask Gasp, c'est, je m'appelle Gaspard, du coup, c'est demandez-moi n'importe quoi dans le monde audiovisuel, de la pub, de la com, et je le fais.
Okay.
Et je me suis dit, c'est bien, ça va me permettre de vivre. Et en fait, ça m'a permis non seulement de... Enfin, alors, les trucs que je faisais ne prenaient pas tant d'ampleur que ça. Je recommençais un petit peu ma chaîne YouTube par la même occasion, et je faisais un peu ces deux activités à côté. J'essayais de parler d'actualité timidement sur YouTube, avec mon audience un peu morte, parce que, tu sais, c'est une audience qui était... je faisais 3 ou 4 000 vues par vidéo, c'était assez d'ailleurs frustrant. Mais c'est une audience qui était vraiment fatiguée, puisque c'est une audience que je n'avais pas cultivée pendant ces dernières années. Et finalement, ces 150 000 abonnés n'étaient plus qu'une vanity metrics, mais rien d'autre.
Oui, puisque toi, en plus, entre tes 12 ans et tes 20 ans, je pense que tu avais un peu changé.
Exactement.
Ton discours avait changé.
Tu parles plus des mêmes sujets, ouais. Exactement. Et de l'autre côté, il y a cette boîte, du coup, Ask Gasp, qui est un peu un prétexte, une SASU, hein, pour parler très techniquement parlant et administrativement parlant,
tout à fait.
Qui me permettait de payer mon loyer, en fait. Et cette SASU d'audiovisuel, elle marchait plutôt bien. J'ai pu commencer à prendre une première employée grâce à tout ça. Et en fait, rapidement, j'ai réalisé qu'il y avait quelque chose à faire autour des créateurs de contenu qui parlent d'éducation, de culture et d'information sur Internet.
D'accord.
Il y avait l'émergence déjà d'un certain Hugo Decrypt, qui marchait déjà plutôt pas mal, il faut le dire.
Absolument.
Il y avait des Dr Nozman, des vulgarisateurs, des Nota Bene, Manon Bril, en tout genre. Et je me disais que c'était chouette et que c'était cool de capitaliser sur l'intelligence des foules. Je voyais des énormes agences de créateurs de contenu qui se montaient, qui sont super par ailleurs, hein, des Follow, des Slick et d'autres encore, des Webedia, des... Media One, enfin bref, tous ces gros groupes médias également qui de plus en plus s'intéressaient aux créateurs de contenu. Et moi, je me suis dit, je vais me focaliser sur celles et ceux qui font l'information, qui font l'éducation, qui font la culture. Pour ce faire, je suis allé lever des fonds auprès d'un autre certain Xavier Niel, bien connu puisqu'il est le patron de Free. Et celui qui a fait beaucoup pour la Startup Nation en France, puisqu'il a monté Station F, il a lui-même un fonds d'investissement, Kima Ventures, qui arrose l'écosystème quasiment plus que BPI France, c'est dire à quel point le type est en place.
Petit wink à Jean de la Roche-Brochard qui nous écoute peut-être. En tout cas.
Exactement, exactement. Et Jean, du coup, est devenu mon investisseur, du coup, par la même occasion. Jean de la Roche-Brochard qu'on salue. Et c'était assez improbable parce que j'ai toujours voulu levé avec Kima. C'est un peu bizarre à dire, mais 3 ans avant de le faire, j'ai commencé à m'intéresser un peu à cet écosystème de la levée de fonds, de la start-up en France, et évidemment de La Roche-Brochard et Niel en duo, puisque Jean de Roche-Brochard, c'est le
dirigeant
de Kima Ventures, voilà, c'est la tête chercheuse de Xavier Niel en matière d'investissement. Et Jean de La Roche-Brochard a accepté de m'écouter pendant 1, 2, 3 rendez-vous. Et en général, il y a quand même un truc qui se dit un peu dans l'industrie, c'est de dire, bon, au bout de 2 rendez-vous, laisse tomber, Jean, il t'aime bien, mais il te filera jamais d'oseille, quoi. Et en fait, avec moi, ça n'a pas été le cas. Le premier mail que j'ai envoyé pour avoir ce contact-là, Jean a répondu, moi, la créateur économie, je sais pas ce que c'est, les youtubeurs, ça me parle pas, laisse tomber, c'est pas pour nous, mais chaud de rencontrer le mec. J'avais fait une vidéo, en gros, un peu rythmée, un peu punchy, pour pouvoir essayer de le rencontrer.
Ouais.
Un ami à moi lui avait transmis. Enfin, l'avait transmis à un type qui l'avait transmis à un autre type qui l'avait transmis à Jean. Voilà. Exactement. Même si, bon, en vérité, aujourd'hui, dans l'écosystème, c'est assez simple. Enfin, je trouve que c'est un type qui est assez accessible.
Il y a un truc qui est assez incroyable, ça s'appelle les emails. Je sais pas si.
Ah ouais. Non, mais choper l'email de Roche Brochard, à l'époque, c'était pas si évident pour moi. Surtout, je crois pas qu'il ait un mail un peu consensuel, etc. Je crois que c'est un truc un peu.
Secret
de polichinelle quand même qui se passe quand même assez facilement quand t'es en place. Mais en fait, moi j'avais 21 ans au moment de ma première rencontre avec Jean. J'avais vécu 9 ans à peu près 9 ans à l'étranger, en Amérique du Nord. Enfin bref, autant te dire, je connaissais personne à Paris, personne pour me le présenter, etc. Donc j'ai été assez vénard de ce truc là. Il y a cette rencontre, cette levée de fonds. Il décide de me faire confiance. Je pleure quand on m'annonce que c'est bon. Je suis hyper soulagé parce que j'avais quasiment plus de trésor, en fait. Mine de rien, l'emploi de quelqu'un, c'est des choses qui sont difficilement calculables. Et je m'étais dit, bon, bah, qu'à cela ne tienne, on y va en full insouciance et avec un peu de confiance et de se dire, au pire des cas, si ça se casse la gueule, c'est pas très grave. Et puis, bah, voilà, ça fait 3 ans. 3 ans qu'on développe Intello, qui est une belle boîte aujourd'hui, qui fait près de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel, qui accompagne une vingtaine de créateurs de contenu, qui font de l'information, de la culture et de l'éducation. Et puis, du coup, maintenant, il y a cet espace de 250 mètres carrés avec 2 studios ici, full équipés à Paris, qui accueille plein de tournages différents de nos clients, qui sont des boîtes du CAC 40, qui sont des institutions. On bosse avec BPI France, avec la Caisse des dépôts, avec Air Liquide, avec Engie, et tant d'autres encore, qui décident de faire confiance à l'intelligence des foules, à l'intelligence des audiences qui suivent nos créateurs de contenu. C'est une audience qui se monnaie bien et qui se monnaie peut-être encore mieux que l'influence lifestyle. On fait ce qu'on appelle de l'awareness. Donc nos créateurs de contenu vont pas faire ce qu'on appelle de la conversion, un peu en bon marketing, mais c'est pas à toi que je vais l'apprendre. Et nous, on essaye de sensibiliser sur les grands enjeux qui travaillent nos clients, donc ces sociétés du CAC 40 et ces institutions, et pas réellement de la conversion. C'est-à-dire que, en gros, pour faire très simple, nos créateurs n'ont pas de lien affilié en général vers des produits en description parce qu'ils convertissent assez mal. Par contre, ce sont des experts qui vulgarisent au mieux les enjeux de ta marque.
J'entends. Oui, du coup, j'imagine que vous êtes adossé à des objectifs du développement durable. Peut-être pas forcément verbalisé ou formulé, mais...
Assez souvent, on essaie de faire attention quand même là-dessus, parce que, en effet, on parle évidemment beaucoup des enjeux RSE des boîtes, de leurs responsabilités, tant sur le plan environnemental que des solidarités, particulièrement environnementales en vérité aujourd'hui, particulièrement à l'approche d'événements comme les JO, par exemple, qui sont des événements extraordinaires pour nous. C'est un marché business de dingue, parce que... Il se passe quelque chose, il y a des choses sur lesquelles communiquer. Et donc, le milieu de la pub, évidemment, parce que je considère qu'à la fin, je fais quand même de la pub. Je fais de la pub et de la prod à travers Intello, et je fais de la prod éditoriale. J'ai une activité média sur mes réseaux propres, du coup, qui se sont développés en même temps. Moi, je suis un des créateurs qui est représenté par Intello. Et puis, je suis à la fois le fondateur de l'agence, ce qui me permet de ne pas avoir trop de conflits d'intérêts avec mon agent, puisque je suis un peu mon propre agent. Évidemment, c'est Vlad qui fait... Vlad, mon associé aujourd'hui, qui est un copain d'école que j'ai rencontré à HEC Montréal. Du coup, on a étudié ensemble au Canada. Lui, c'est un Rémois qui a toujours grandi dans les champs de Champagne et puis qui a décidé aussi de monter à Paris. Et donc, on s'est retrouvés là-bas, on a pris une bière. Je lui ai dit, écoute, mon vieux, je viens de lever des fonds, mais je n'ai pas de business model à proprement parler. Il faut que tu viennes m'aider. Et c'est mon directeur commercial depuis 3 ans. Aujourd'hui, je réalise que pour moi, c'est important aussi de lâcher un peu prise. Je pense que c'est un type assez extraordinaire qui s'appelait, j'ai oublié son nom, mais qui a fait monter une boîte qui s'appelle Rona au Canada. Rona, c'est l'équivalent de Castorama en Amérique du Nord. Et lui a fait monter cette boîte, ça a été mon prof d'entrepreneuriat, il a fait monter cette boîte de 4 millions à 200 millions de dollars de CA annuel. Et lui a expliqué qu'en fait, il y a différents types d'entrepreneurs, qu'il y avait celles et ceux qui étaient là pour les débuts, de 0 à 1 million, celles pour 1 million à 10 millions, et les autres de 10 millions à l'IPO. Voilà. Et moi, je crois fort à ça, et moi, j'aime bien être à la jeunesse des projets. Et puis là, j'ai aussi beaucoup de boulot avec mon activité du coup de créateur de contenu qui s'est développée aujourd'hui. J'ai la chance d'être suivi par à peu près 800 000 personnes aujourd'hui pour parler d'actualité, de politique, de société. C'est la deuxième chaîne d'information en France d'après YouTube. Donc je suis très heureux de tout ça. Et j'essaye d'incarner aussi ces nouveaux visages qui font l'information en France à ma manière. Et c'est beaucoup de boulot. Donc, j'étais content de laisser un peu la main à Vlad quand on a pris cette décision.
Tu m'étonnes, et c'est génial. Ça te permet de te reconcentrer sur, finalement, là où tu as débuté, donc dans la création et le contenu multimédia. Félicitations pour tous ces beaux accomplissements. Et on va y revenir, et je te poserai plein de questions sur les créateurs que vous représentez pour qu'on puisse se projeter un petit peu. Mais avant ça, peut-être un peu clarifier, parce que tu as parlé justement de la différence entre les créateurs et les influenceurs lifestyle, notamment sur l'impact qu'ils peuvent avoir sur les audiences. Mais concrètement, qu'est-ce que tu définis comme un créateur ?
Un créateur, je considère que c'est quelqu'un qui crée de la valeur, quelle qu'elle soit. Et d'ailleurs, je pense qu'on n'est pas obligé d'avoir cette sémantique-là uniquement dans le monde de l'influence. J'aime pas ce mot du tout, mais... Mais un créateur, c'est quelqu'un qui apporte de la valeur. Donc, ça peut être un créateur de mode, Jacquemus. Ça peut être un créateur, quelqu'un qui fait de la déco. Mmh. Ça peut être un ébéniste. Un ébéniste, c'est un créateur. Un créateur, il y a une logique aussi un peu artisanale dans tout ce que ça va être plus noble. Et je considère que, en fait, quelqu'un qui peut faire des très belles photos sur Instagram est un créateur. Mmh. Quelqu'un qui va faire des vidéos, qui va vulgariser des sujets de science, est un créateur. En revanche, moi, là où j'ai beaucoup de mal, c'est quand on est comparé en tant que créateur de contenu ou créatrice de contenu aux influenceurs, influenceuses qui sont plutôt issus du monde de la télé-réalité, qui vendent simplement de la personnalité.
De l'image,
Ouais, et encore, l'image, parfois, elle n'est pas très travaillée si on parle réellement d'image à proprement parler.
Oui.
Mais qui vendent simplement une personnalité qui, en général, s'essouffle assez vite.
Ouais.
Et moi, c'est aussi dans cette logique de vouloir créer quelque chose de pérenne où je suis très fier. Je vois qu'aujourd'hui, je suis persuadé que nos audiences et les audiences des créateurs qui misent sur l'intelligence des gens vont durer beaucoup plus longtemps que celles et ceux qui sortent de Frenchy Shore, de Secret Story, ça n'existe plus Secret Story, mais les anges de la télé-réalité et d'autres.
Contente qu'on ait les mêmes références, parce que sinon j'aurais eu un petit coup de vieux.
Voilà, mais non, mais j'ai découvert ce truc-là qui s'appelle Frenchy Shore sur Paramount+, qui est une espèce de télé-réalité encore plus trash que tout ce que tu as pu connaître.
Ouh là là.
Ouais, non, vraiment, c'est bon, bref, peut-être c'est peut-être ça, devenir un vieux con. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'en effet, pour moi, il y a une différence sémantique importante entre un influenceur et une influenceuse et un créateur ou une créatrice de contenu.
D'accord. Là où en plus les influenceurs et influenceuses vont généralement avoir une présence sur les réseaux sociaux, mais créer très peu de contenu en dehors de leurs posts, de choses sponsorisées ou de leur prise de parole, alors que les créateurs, en général, quand tu dis ils créent de la valeur, est-ce qu'il y a généralement un truc qu'ils mettent en place ? Du coup, alors j'essaye de t'amener pas du tout subtilement sur le sujet des vidéos YouTube ou des podcasts ou des newsletters, enfin généralement des contenus peut-être un peu plus conséquents.
Oui, absolument. Absolument. C'est ce que je trouve assez extraordinaire concernant la création de contenu, c'est qu'elle peut être absolument... Moi, je dis polymorphe, je sais pas si c'est le bon mot, mais c'est cette dynamique de se dire... Je ne sais pas si ça te parle un peu Pokémon ou pas du tout.
Oui, bien sûr,
bon,
quand même.
Tu vois, il y a une espèce de Pokémon un peu difforme qui peut se transformer un peu en tout.
Mm-hmm.
Et moi, ça me parle beaucoup. Je ne sais pas pourquoi, quand je pense à ce mot polymorphe, c'est cette espèce de référence juvénile, tu vois, qui revient. Et aujourd'hui, la création de contenu, elle est plurielle. Quand tu crées du contenu, donc je ne parle pas ici des influenceurs, tu vois, qui vendent simplement une personnalité, mais vraiment, quand tu es créateur ou créatrice de contenu, aujourd'hui, tu as plein d'outils à ta disposition pour pouvoir créer de manière plurielle. Tu as TikTok, YouTube Shorts et Instagram Reels, et d'autres encore qui te permettent de faire des contenus très très courts, qui sont aujourd'hui un peu les contenus stars, qui permettent de générer très rapidement une audience, beaucoup de vues, etc. Tu as des contenus qui, moi, sont mes préférés, les contenus de 10 minutes à 1 heure, qui sont des contenus qui vont un peu plus rentrer dans le long. Et puis, tu as les lives aujourd'hui aussi, qui sont assez extraordinaires, qui sont des codes que je maîtrise un peu moins, mais qui sont un petit peu aussi sur Twitch, sur YouTube et d'autres aussi, TikTok et Instagram offrent cette possibilité de faire du live en 9/16e, mais qui sont une nouvelle manière de s'exprimer, une nouvelle manière de d'être avec une audience, une relation parasociale, donc de potes qui est de plus en plus importante encore, puisque aujourd'hui, des streamers, ils passent quasiment un tiers de leur vie active avec leur audience. Sinon, ils sont pénalisés par les plateformes. Je veux dire, il y a un minimum de stream sur Twitch pour pouvoir être Twitch partner, donc avoir un minimum de revenus aussi par rapport aux cuts, etc., qui sont pris par la plateforme au moment des dons et des subs, ce qu'on appelle des subs sur Twitch, donc des abonnements payants qui sont pris par les audiences pour pouvoir soutenir les créateurs. C'est assez dément. Et d'un autre côté, il y a aussi une partie de la roue qui... on a atteint la fin d'un cycle qui en fait se remord un petit peu. Ce que je vais expliquer par là, c'est que Twitch, on a dit pendant longtemps, mais le linéaire, c'est un truc de boomer, c'est un truc de vieux, etc. Ça ne marchera jamais. Aujourd'hui, les gens veulent des choses à la demande, de la VOD. Ouais. Bah, Twitch nous prouve absolument le contraire aujourd'hui.
Absolument.
Voilà, et tout n'est qu'un cycle qui se répète. Et c'est pour ça que je pense que c'est très important aussi. Et je crois que celles et ceux qui le comprennent le mieux, ce sont les créateurs en fait, qui fonctionnent le mieux aujourd'hui. Je pense à des Squeezie, je pense à des Pierre-Alexis Domingo sur Twitch, qui a une émission qui s'appelle Popcorn, qui est une des plus populaires de la plateforme. Je pense à Hugo Decrypt, que je connais un peu. Ils ont cette dynamique de ne pas snober la télé. Alors peut-être qu'en interview, il va y avoir un ou deux tacles bien glissés, parce qu'en même temps, les créateurs d'Internet se sont pris tellement plein la tronche pendant longtemps dans les médias mainstream. Ceci étant dit, Squeezie, quand il fait « Qui est l'imposteur ?», aujourd'hui, il ne reçoit plus des créateurs de contenu. Il reçoit des superstars, des Marion Cotillard, des Camille Cotin, des François Civil, Pierre Niney, Aurel San, qui sont là pour faire la promo de leur film. Comme hier, on faisait la promo sur « C'est à vous » ou sur « On n'est pas couché », aujourd'hui, on va chez Squeezie.
Ouais.
Et c'est cette logique-là que je trouve intéressante. C'est les créateurs qui ne disent pas « avec l'arrogance du présent ». Il y a cette phrase assez intéressante qu'un ami m'a dit un jour. Un monde qui se respecte ou un monde qui va bien, c'est un monde où le vacarme des vivants n'étouffe pas la musique des morts.
C'est beau.
Alors, ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est que parfois, l'arrogance du présent nous pousse à vouloir dire « on réinvente toujours et toujours la roue ». Moi, aujourd'hui, j'ai l'humilité de dire que mes formats qui marchent le mieux, c'est des histoires, des portraits que je fais sur ma chaîne, qui font 1 million, 2 millions, 3 millions de vues parfois. Et bien, c'est l'équivalent du « Un jour, un destin » qui a été porté pendant très longtemps par Laurent Delahousse, d'un Pierre Belmar, si on monte un peu avant, à la télé, à la radio, pardon, qui faisait des portraits, des espèces de true crime stories. Et je trouve ça passionnant. Voilà, il faut aussi pouvoir regarder... Alors, chez les Américains, parce qu'ils font des trucs super, mais aussi chez nos aïeux, pour essayer de comprendre ce qui a marché et pourquoi les médias sont un éternel recommencement.
Ouais, c'est de la sociologie, au final, on est câblés d'une certaine manière, on a des habitudes et des choses qui sont profondément ancrées, une appétence pour le storytelling, un temps d'attention limité, des choses comme ça, donc en effet, c'est important d'en être conscient, mais trop intéressant. Tu disais justement, tu as évoqué rapidement le fait que Jean, quand tu l'as contacté, disait « Ah, l'économie des créateurs, c'est pas fait pour nous, on n'y comprend pas grand-chose, on n'y va pas.
Ouais. »
Cette économie, justement, on en entend de plus en plus parler, mais je ne sais pas si les gens comprennent vraiment. En tout cas, moi, j'ai du mal à comprendre quels en sont les contours, qu'est-ce qu'elle englobe, à quoi elle ramène, cette économie de la création. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, vu que tu t'inscris en plein dedans?
Ouais, carrément. En fait, on était carrément même à la genèse de ce truc-là. En fait, la créateur économie, si on parle même sémantiquement, déjà, qu'est-ce que c'est? C'est l'économie des créateurs. Voilà. Donc, c'est tout ce qui touche au monde du travail, au monde du business, même à la régulation, en vérité, législative, enfin, je veux dire, légale et juridique de ce qui se passe aujourd'hui dans l'économie des créateurs. Et on en parle un peu tout ça. Et puis, pourquoi je parle du juridique? Parce que récemment, il y a eu la loi de Bruno Le Maire à Bercy pour pouvoir contourner un peu mieux et encadrer davantage cette économie qui est balbutiante et puis qui a été pendant longtemps un sacré Far West, il faut le dire aussi. Comme à l'émergence d'Internet. D'ailleurs, mon investisseur, Xavier Niel, a fait de la prison pendant un moment parce qu'il a fait des conneries sur Internet. Il a profité, je pense que c'était au moment du Minitel, tout ça, j'ai pas exactement tous les détails, mais il a essayé de profiter un petit peu de ce Far West. Aujourd'hui, c'est Magali Berda qui en paie les frais aussi parce qu'elle a fait pas mal de conneries avec ses influenceurs. Là, pour le coup, je parle d'influenceurs. Mais voilà. Donc, pour remonter un petit peu, la créateur économie, au fond, elle peut démarrer, je pense, en France en tout cas, à l'époque où Cyprien, Norman, Rémi Gaillard, Joueur du Grenier et d'autres, des créateurs historiques, donc, qui sont à la base des YouTubers, hein, c'est quand même la première plateforme qui a vu émerger en son sein des créateurs de contenu sur Internet, ont commencé à pouvoir générer un SMIC avec leurs vidéos. Il y a une ambition, en tout cas, à cette époque, de pouvoir en vivre. Et d'ailleurs, moi, je me replonge un peu là-dedans. À l'époque, je suis un ado, je vais voir ma maman et je lui dis « Je vais être YouTuber ». Et elle me dit mais c'est des conneries. Il y en a,
quelle idée.
Il y en a deux qui en vivent en France, en fait. Ouais. Et puis aujourd'hui, il y a peut-être 500 YouTubers, je pense, qui vivent extrêmement bien en France de leur activité. Je pense que je peux en compter... Je pense que on avait fait un peu cet exercice avec des copains. Je pense qu'on peut en lister à peu près 500 qui vivent à peu près au-dessus de 10 000 euros par mois, de 10 000 euros de revenus par mois. Donc, ça ne veut pas dire qu'ils se payent 10 000 euros par mois. Je ne me paye personnellement pas 10 000 euros par mois, mais je pense que je fais partie de celles et ceux qui permettent de générer un revenu supérieur à 10 000 euros par mois, qui permettent derrière de payer des équipes. Et à partir de ce moment-là, c'est une boîte de prod, quoi.
Ouais.
Bon, et puis il y a aussi ce que les Américains appellent la middle class des créateurs qui s'est aussi développée, c'est-à-dire des créateurs de contenu qui n'arrivent pas super bien, mais qui avec 50 000, 100 000, 200 000 abonnés arrivent avec des audiences un peu plus de niche à générer 2 000, 3 000 euros par mois, 1 500 euros par mois, et puis qui en vivent en vérité, comblés à... Et tout ça est assez intéressant et ça s'est développé sur à peu près 10 ans. Alors d'abord, évidemment, ce sont les créateurs du lifestyle qui ont eu le vent en poupe, et puis celles et ceux qui faisaient des blagues un peu potaches, des parodies, etc., parce que c'est ce qui se faisait à balle à l'époque. Maintenant, ce qui est très intéressant, c'est que les audiences ont grandi avec les créateurs. On parlait, avant, c'est un terme que j'entends un peu moins aujourd'hui, de « digital native ». Et ces « digital native » sont des jeunes gens qui, à l'émergence de YouTube, avaient 10-15 ans, qui sont nés un peu avec l'émergence d'Internet dans les mains, avec un smartphone plus ou moins dans les mains, ou en tout cas ce qui s'en rapprochait le plus à l'époque. Et puis, aujourd'hui, ces audiences, elles ont grandi. 10 ans après, elles votent, elles payent des impôts, elles travaillent, ce sont des jeunes actifs. Et donc, naturellement, leur centre d'intérêt change. Est-ce que ça veut dire qu'il y a moins besoin de divertissement ou de contenu lifestyle ou pour adolescents? Ben non, parce que, en fait, des digital natives, il y en a tous les jours qui en naissent. Donc, littéralement, celles et ceux qui naissent avec le numérique dans les mains. Il y a d'ailleurs des audiences de dingue qui se développent autour des contenus pour enfants.
Oui. Alors,
bon, je ne sais pas si je dois émettre un jugement là-dessus, mais dans les supermarchés, il suffit d'ouvrir les yeux pour voir des bébés avec des iPads qui sont sur YouTube Kids. Je ne sais pas si c'est une bonne chose ou pas pour le développement de l'enfant, mais ça, éventuellement, on le laisse aux parents et je verrai, je n'ai pas encore la chance d'être parent pour me faire un avis dessus. Ceci étant dit, on voit qu'il faut du contenu numérique pour tout, pour tout le monde. Et récemment, je me suis même fait la réflexion, j'ai un papa qui est un vrai boomer dans tout ce que ça a de plus chouette, tu vois. Mais littéralement, c'est un baby boomer. Et donc, mon père baby boomer, je le vois récemment sur son ordinateur en train de regarder un mec. Et je fais, mais c'est qui ce mec? Parle-moi de ce type. Et il dit, ah, c'est un gars que je suis, etc. Il me donne des conseils en investissement immobilier, blablabla. Ce type-là avait 50 000 abonnés, je sais pas, c'était un truc genre Rémi Imo ou quelque chose comme ça, tu vois. Et je fais, mais tu suis ce mec avec attention? Ouais, ouais. Je fais, là, papa, tu suis un influenceur, enfin, tu suis un créateur de contenu.
Mais oui.
Et je trouve ça assez intéressant parce qu'il y a des audiences et ce que nous, on va appeler un petit peu dans l'industrie des passion points qui vont se développer autour de plein de thématiques différentes, peu importe ton âge. Moi, aujourd'hui, je me concentre sur l'information. Je prends le pari qu'il y aura de plus en plus de gens qui vont avoir besoin de s'informer sur YouTube, de regarder les débats présidentiels, les débats de nos élections, les débats politiques et de la vie publique qui se créent dans nos démocraties sur Internet. Et donc, je décide d'en parler sur ma chaîne. Et puis, en fait, je pense que cette audience, elle va ne cesser de croître jusqu'à la fin, qui va finir par arriver, de la radio et de la télévision, qui, s'ils n'arrivent pas aujourd'hui à s'adapter, finiront par mourir. Aujourd'hui, je pense qu'il y a une espèce de déni de masse dans les équipes de Delphine Ernotte et Sybille Veil chez Radio France et France Télévisions. Mais c'est véritablement ce qui est en train de se passer. J'ai mon ancien producteur, Max, qui travaille encore aujourd'hui avec moi, qui est mon co-réalisateur sur beaucoup d'enquêtes, qui a longtemps travaillé pour Radio France et qui me dit « Mais j'ai encore reçu les chiffres et ça baisse ». Et ça baisse. Et chaque mois, chaque nouveau semestre, chaque fois que les audiences médiamétriques tombent, alors oui, il y a toujours... France Inter devient la première matinale de France. Ah ben non, c'est RTL qui est passé devant. Bon voilà, ça existe toujours, la compète.
Ça reste sur des audiences qui sont en diminution
permanente.
Super intéressant. Et tu mentionnais Hugo Décrypte. Toi-même, tu as 800 000 abonnés. C'est immense et j'imagine que c'est plutôt des représentations des plus jeunes et des nouvelles générations. On observe en effet une évolution de nos manières de nous informer, de nous éduquer, de nous distraire. Comment tu expliques l'attrait et l'engouement autour des créateurs aujourd'hui?
Waouh, c'est une bonne question. Je pense qu'il y a un besoin croissant à l'authenticité,
ouais,
et à la démarche authentique. Et je crois que Laurent Delahousse, David Pujadas, Élise Lucet... Bon, Élise Lucet devient vraiment très authentique avec ses caches
investigations.
On la met
dans une catégorie à part, on l'adore.
Parce que c'est une queen, voilà, donc on la met à côté. Mais ces présentateurs ont cruellement manqué d'authenticité pendant longtemps. Mm. Même les Arthur et autres. J'essaye de réfléchir à des noms. À chaque fois...
C'est dur, hein. Les exemples, c'est pas facile.
Alors, non, mais j'en ai, mais à chaque fois, ils sont dans une sauce pas possible... Principalement, là j'ai pensé à Coé et PPDA et je me suis dit, mais en fait, je peux pas vraiment. Mais c'est bon, bah, quelque part, ça montre aussi quelque part cette posture-là.
Ouais.
C'est aussi le reflet d'une époque où les présentateurs étaient tous dans des démarches de starification presque à l'américaine qui les a placés dans une espèce de bulle à part. Aujourd'hui, évidemment, il y a des superstars créateurs de contenu. J'en étais avec certains hier, j'animais une émission caritative et certains d'entre eux étaient absolument imbuvables. Donc, la starification à l'heure des influenceurs, ça existe encore. Ceci étant dit, aujourd'hui, il y a quand même une vraie demande de la part de l'audience pour plus d'authenticité, pour plus de vulnérabilité devant la caméra. Que tu fasses de l'information, de la politique, ou que tu parles de divertissement, que tu fasses des blagues, etc. Et ça, je trouve ça hyper intéressant. Et puis, je pense que dans une logique de rôle modèle aussi, ça peut permettre à des audiences, tu vois, de se poser davantage de questions autour de la santé mentale, autour de même de la différence, comment on cultive la différence, etc. Mmh. Il y a différentes incarnations qui sont beaucoup plus intéressantes. Ce que permet aussi Internet et ces plateformes, c'est une représentation beaucoup plus diverse des individualités. Mmh. Aujourd'hui, on voit des influenceurs, des créateurs de contenu queer, on voit des créateurs de contenu qui sont des meufs qui parlent de bricolage, je dis n'importe quoi, alors mais que oui, en fait Monsieur Bricolage à la télévision c'était souvent un bonhomme à l'époque, alors que celle qui était derrière les fourneaux, bah souvent à la télévision c'était souvent une meuf, pareil,
des trucs très hétéronormés,
exactement, et ça permet complètement de casser les codes, et ça, ouais, je trouve ça absolument formidable,
c'est vrai, et ça permet vraiment d'aller dans la consommation de créateurs de niches qui sont vraiment spécifiquement positionnés sur, ouais, un sujet en particulier, d'aller faire un peu ton shopping et de créer finalement ta propre bulle informationnelle avec les risques que ça présente aussi, j'imagine, mais en tout cas, et de créer un truc qui te ressemble, quoi, plutôt que d'avoir, ouais, ces archétypes.
Absolument.
Trop intéressant. Et alors vous, du coup, avec Intello, comment vous accompagnez ces créateurs? Et du coup, qui sont les créateurs représentés par le studio?
Alors, il y a une vingtaine de créateurs représentés. J'aurais un peu de mal à les citer tous, oui, de tête. Ceci étant dit, je vais te parler de celles et ceux qui, pas qui m'inspirent le plus, mais avec qui on travaille le plus.
Mm-hmm.
Et qui sont aujourd'hui assez développés. Déjà, j'ai parlé de César, qui a le premier compte de Culture G sur TikTok, qui s'appelle César Culture G. Voilà.
Très bien.
qui a 2 millions d'abonnés, qui est aujourd'hui un jeune homme qui s'est staffé, qui a une vraie démarche entrepreneuriale et qui veut faire en sorte que la culture soit accessible à tous. Mmh. Voilà, le postulat est assez simple. Je te parle aussi de Claire, qui est une créatrice que tu as eue sur ce podcast.
Claire Pétréo, tout à fait.
Claire Pétréo, qui a un média qui s'appelle Les Pépites Vertes, qui, ouais, parle de transition écologique et comment des jeunes actifs aujourd'hui au sein de grosses boîtes peuvent accompagner cette transition. Je vais te parler aussi de Mamadou, qui a un compte qui s'appelle The Impact Story, qui était l'invité de François, de Léa Salamé et Nicolas Demorand il y a 2 semaines, et ça nous a rendu super fiers, mmh, sur France Inter, qui est un nouveau visage de l'écologie qu'il porte de manière positive. Il va essayer de casser un petit peu ce dogmatisme, mais cet état d'esprit ambiant dans l'écologie, comme quoi bah, on est foutu, et qui va dire non, regardez, il se passe des choses, et il va sur cette notion d'espoir. Alors évidemment, il faut des Camille Etienne, il faut des bons potes et tous les autres pour pouvoir pointer du doigt les mauvaises pratiques. Et puis, je pense qu'il faut aussi, dans la cause écologique, des mecs et des nanas qui puissent en parler de manière positive et nous offrir un peu une vision d'espoir là-dessus.
Absolument.
Voilà, donc entre autres quelques créateurs, mais je peux aussi te parler de Marc, qui est le premier agrituber français avec qui on a la chance de travailler. Donc tu vois, on travaille avec des créatrices et des créateurs de contenu qui parlent de droit, de justice, d'éducation, qui accompagnent des jeunes dans leur révision scolaire, qui parlent d'écologie, qui parlent de société, de politique, d'actualité, et tellement d'autres choses encore. Et moi, c'est ces passion points-là autour de l'éducation. Parfois, on parle même d'edutainment, tu vois, l'éducation de manière, pas récréative, mais divertissante.
Ouais.
Comme on pouvait parler d'infotainment. Voilà, tous ces créateurs-là, moi, m'inspirent beaucoup. Et donc, on bosse avec eux. La manière dont on bosse avec eux, puisque c'est la deuxième partie de ta question, eh bien, écoute, c'est assez simple. On a un modèle d'affiliation avec eux, où, en gros, on les représente sur tous leurs partenariats commerciaux et leurs productions. Donc, il y a un cut qui est le même pour chacun. C'est 30%. Je sais que ça ne se fait pas toujours de dévoiler ces cuts sur des larges audiences, mais nous, on le fait.
Merci pour ta transparence.
Non, mais je pense que c'est important parce que c'est aussi un truc de cette nouvelle génération qui est important, je crois, c'est un monde vers plus de transparence. Et d'ailleurs, c'est ce qui a coûté, en vérité, beaucoup de business à des boîtes d'hier. Je pense à des grosses boîtes dont je ne citerai pas le nom parce que ce sont aujourd'hui des partenaires et qui veulent faire mieux. mais qui ont pendant longtemps été au top et qui ont manqué de transparence avec leurs créateurs, leurs créatrices de contenu, et qui aujourd'hui s'en mordent un peu les doigts. Donc bref, nous on a ce cut-là de 30% qui permet aux différents agents, aux différents apporteurs d'affaires, business managers qui sont en haut, mais sales en haut, et qui sont gérés par l'équipe de Vlad chez Intello, qui en fait littéralement gère les boîtes mail des créateurs. Un créateur de contenu, ça reçoit entre 20 et 25 mails par jour. Et puis, là-dedans, il faut faire le tri pour savoir ce qui vaut le coup de faire du business ou pas. Ces créateurs, ils sont très heureux aussi de ne pas devoir gérer cette partie administrative et commerciale parce que c'est un vrai enfer quand t'aimes pas ça.
Oui.
Quand t'as une passion éditoriale, t'as envie de te consacrer sur l'édito et pas la manière dont tu vas pouvoir faire vivre tes équipes et financer tes productions.
Tout à fait.
Donc nous, on s'occupe de ça chez Intello. Et puis de l'autre, on est aussi un studio de production qui produit des contenus en marque blanche, incarnés par des créateurs ou pas. C'est-à-dire que, par exemple, je vais te prendre un exemple, il y a Citigo récemment qui nous a appelé, Mamad qui a fait une petite émission pour eux sur leur réseau propre, donc ce sont des réseaux propriétaires de Citigo. On s'est signé un télo nulle part, mais toutes les vidéos, c'est nous qui les avons produites. Il y a la même chose, on produit avec Engie un podcast extraordinaire qui s'appelle Les Visages de l'énergie, où on fait interagir deux collaborateurs entre eux, les Visages de l'énergie, donc des personnes qui sont issues de deux générations différentes. Donc on peut avoir un mec du comité d'administration qui parle à une jeune alternante qui lui fait plein de reproches sur l'inaction écologique qu'elle a pu voir au sein de cette boîte. Et donc c'est très intéressant d'avoir cette authenticité-là des marques qui décident aussi de nous faire confiance là-dessus. Donc voilà, on fait aussi beaucoup de marques blanches et en vérité aujourd'hui, je te dirais, c'est ce qui rapporte à peu près 50% du volume d'affaires, mais un peu plus encore de la marge parce qu'évidemment, quand on fait de la prod, on marge beaucoup plus qu'à 30%.
Ouais, et c'est hyper intéressant que tu parles de ces campagnes et de cette offre de Studio Régie parce que finalement, la raison pour laquelle on va avoir tendance à se tourner de plus en plus vers les créateurs, c'est ce besoin d'authenticité, d'incarnation, de transparence. Les marques, finalement, peuvent s'emparer un peu de ce levier aussi en collaborant avec des créateurs pour aller passer des messages qui sont des messages incarnés, humanisés auprès de nouvelles audiences et rester dans les clous par rapport à des nouveaux systèmes de valeurs et les attentes de ces plus jeunes audiences.
Mais tu l'as très bien dit. Je peux.
Je bosse dans le marketing.
Mais non, mais je peux difficilement le dire mieux. D'ailleurs, je pense que je ferais réécouter ce podcast à nos sales pour en tirer un chouette EDL. Non, tu l'as très bien dit. C'est un message. Je vais ne faire que répéter ce que tu viens de dire. Un message humanisé auprès de nouvelles audiences. Qui avec des sets de valeurs. Et ça, c'est très important aussi quand on va approcher un créateur et quand on démarche une marque ou qu'une marque nous démarche, on va vraiment vérifier cette de valeurs-là. Aujourd'hui, on veut bosser qu'avec des boîtes qui portent les initiatives positives du monde de demain. On va pas bosser. Enfin, le nombre de fois on a été approché par des Total Energy ou des énergéticiens vraiment dégueux. Et quand je dis dégueux, c'est atroce. Bon, on m'a proposé de faire la pub du glyphosate pour 70 000 euros, mais jamais de la vie. Mais, et il y a des créateurs qui acceptent, hein, donc. Ils ont peut-être un peu raison de continuer d'essayer. Mais nous, aujourd'hui, ce n'est pas le monde dans lequel on veut s'inscrire demain. Alors évidemment, on pourrait toujours faire mieux. On pourrait décider de, par exemple, faire en sorte de décarboner 100% de notre production. Et c'est des choses vers lesquelles on veut aller, parce que je pense que déjà, ça va être des normes qui vont arriver dans les 5-10 prochaines années. On voit qu'il commence à y avoir des régulations. Ma copine travaille et consultante en RSE, donc j'ai la chance d'être un peu
les infos.
À l'appart, on me donne quelques infos là-dessus. Non, mais je trouve ça très intéressant. Et d'un autre côté, on est aujourd'hui une boîte qui avons tous entre 20 et 28 ans. Je crois que le ou la plus âgée a 28 ans. Ce que je veux dire par là, c'est que En fait, on est une génération comme ça qui avons des valeurs qui sont très, très différentes de celles de nos parents. Et même d'un point de vue marque employeur, en vérité, aujourd'hui, je le vois, tu ne peux plus garder des gens, ou très peu en vérité, sinon tu as des turnovers de fous furieux, sur des métiers qui ne font pas sens. Aujourd'hui, en tout cas, sur ces jobs-là de sales, etc., évidemment, il y aura toujours des jobs alimentaires, parce qu'il y aura toujours des gens qui n'auront pas le choix. Mais pour celles et ceux qui ont le choix aujourd'hui, c'est très compliqué pour des Total Energy et d'autres d'aller recruter. Mmh. D'ailleurs, il y a des avantages monstrueux. J'ai quand même des connaissances qui travaillent encore dans ce monde-là. Mon meilleur pote d'université qui bosse dans le milieu de l'aviation. Bon, bah, on voit qu'aujourd'hui, ils sont obligés d'avoir des packages d'enfer. Mais il y a cette dynamique-là qui aujourd'hui ne fait plus beaucoup sens, en fait. Aujourd'hui, on cherche à avoir un métier de sens. Et pour nous, du coup, c'est hyper important d'avoir cette valeur-là de faire très attention. Surtout qu'on est très rapidement approché, et ça c'est hyper important, c'est peut-être l'énorme warning, on devrait presque avoir une sirène ici, tu vois, chez Intello, sur la logique du greenwashing. Ouais. On est beaucoup approché pour ces enjeux-là, et donc du coup, nous on doit faire encore plus de veille, faire attention de bien capter les enjeux de la campagne, de capter les enjeux aussi et les défis qui entourent l'acteur avec lequel on va bosser, pour être bien certain de ne pas rentrer dans ce jeu-là, qui est un jeu qui est absolument contre-productif pour les valeurs qu'on défend.
J'y venais justement, mais du coup, tu as anticipé la question. Difficile de savoir si la démarche est vertueuse, si elle est sincère, ou bien si elle est plutôt opérée dans une optique de mettre un petit coup de vernis sur des pratiques pas forcément vertueuses, ou bien juste de détourner l'attention. Mais j'imagine que la seule chose que tu puisses faire en tant que créateur et en tant qu'agence, c'est de faire ton boulot d'analyse et d'investigation et de vérification de tes sources en amont.
En fait, il y a un premier filtre qui est fait par nos sales, qui sont eux-mêmes des gens qui sont hyper sensibilisés à ces enjeux-là et aux enjeux du réchauffement climatique. Peut-être c'est le premier truc. Et puis ensuite, il y a d'autres choses. Il y a le pinkwashing, il y a d'autres choses encore qui se passent encore aujourd'hui, qui ne sont pas simplement liées aux enjeux environnementaux, mais simplement remettre un coup de vernis, comme tu le disais, sur des enjeux de diversité, peut-être au sein de boîtes, qui en vérité ne le sont pas du tout. Et donc, il y a un premier filtre qui est fait par nos sales. Et puis ensuite, chaque créateur a aussi un set de valeurs plus ou moins fort au niveau de l'engagement.
Oui.
Je pense à Claire et Mamad, par exemple. C'est peut-être les deux créateurs qui, au sein de l'agence, sont le plus regardants là-dessus. Et ils ont tout à fait raison. Et je pense que je dois pas être très loin aussi là-dedans. Déjà parce qu'à partir d'un moment, à partir du moment où tu as une certaine audience, il y a une vraie responsabilité qui se crée par rapport à ça.
Clairement.
Tu peux pas... C'est un peu la phrase de Spider-Man. Un grand pouvoir nécessite une grande responsabilité. Bon, je ne sais pas si je cite correctement cette tagline du film, mais il y a cette dynamique-là de par la responsabilité des audiences. Et puis, en plus de ça, aujourd'hui, on a de plus en plus de règles, et on en a parlé rapidement, mais qui entourent cette activité-là.
Oui.
Et c'est tant mieux. Enfin, je veux dire, tous les acteurs aujourd'hui applaudissent ce qui a été fait au niveau de la RPP et de l'UMIC. Donc, c'est cette union d'agences et d'acteurs du monde de l'influence, de manière générale, qui ont travaillé avec les équipes de Bruno Le Maire, qui est le ministre de l'économie et des finances et de la souveraineté numérique en France. Il y a un titre à rallonge. J'adore ces... Et en plus, ça change tout le temps. En fonction de chaque législature, il peut y avoir un petit truc,
mais
ils ont bien bossé et ils ont bien fait de faire tout ça. Parce qu'aujourd'hui, on voit qu'il y avait énormément de dérives aussi auprès de ces influx voleurs. Il y a ce terme-là qui a été inventé, contraction d'influenceurs et de voleurs, qui promettait monts et merveilles avec des produits souvent issus des pires entreprises écocides de la planète, ou alors juste des fakes, des faux produits,
le dropshipping, tout ça.
Exactement.
On connaît. Hyper intéressant et peut-être, je vois que le temps passe, mais une dernière question pour toi parce que j'accompagne pas mal d'entrepreneurs et d'entrepreneuses qui en sont au début de leur projet, pas forcément dans la création, mais qui en tout cas ont besoin de trouver une audience et de faire porter leur voix, leur projet, etc. sur les réseaux sociaux. On a pas mal parlé des premiers youtubeurs et des premiers créateurs qui sont arrivés sur le marché au début quand ils se lançaient, qui ont grandi avec leurs audiences. Aujourd'hui, ça paraît compliqué de percer, de se faire entendre, de se faire suivre, de trouver cette audience et de développer un « followership », entre guillemets. Est-ce que tu penses que c'est encore possible de te faire connaître, reconnaître et d'avoir ces croissances exponentielles et d'arriver jusqu'à des centaines de milliers de followers ?
C'est très compliqué, mais je pense que c'est encore possible. Et d'ailleurs, pour tout te dire, et pour vraiment être dans une démarche 100% vulnérable et authentique, moi, je suis en train de travailler à partir de janvier. Moi, j'ai une audience sur YouTube, sur ma chaîne YouTube éponyme qui s'appelle Gaspard G. Homonyme, pardon. Ceci étant dit, ces 800 000 abonnés, ils ne se traduisent pas nécessairement en audience récurrente.
Mmh.
Donc, il y a un vrai enjeu de rétention de l'audience aujourd'hui. Parce qu'il y a une offre qui est plurielle, plurielle, plurielle. On est aspergé et arrosé de contenu à longueur de journée sur toutes les plateformes qu'on peut imaginer. Et il y a cet enjeu-là de pouvoir créer un espace religieux. Pourquoi j'en parle ? Parce que je pense qu'avant de vouloir se dire « je veux que mes contenus fassent 500 000 vues à chaque fois », il faut déjà se dire comment j'arrive à garantir 10 000 vues à chaque fois. Et ça, c'est le plus intéressant, c'est le plus important, c'est d'avoir une audience. Et même aujourd'hui, en vérité, un créateur qui m'approcherait pour me dire « frérot, j'ai 1 500 000 abonnés sur TikTok », aujourd'hui, on sait que TikTok, c'est une plateforme où la vanity metrics est forte, mais en vérité, la récurrence des audiences est moindre.
Parce que l'algorithme ne va pas forcément privilégier...
Voilà, ça ne va pas forcément être un facteur clé pour pouvoir pousser ton contenu, ton nombre d'abonnés. C'est plutôt voilà, ce qu'on appelle de la vanity metrics, un compteur de vanité, donc quelque chose pour lequel tu te la pètes, mais en vérité, bon, ça n'a pas beaucoup d'impact. Peut-être que ça peut te faire rentrer dans un restaurant chic le soir, mais c'est à peu près tout ce que ça peut permettre, et encore... Ceci étant dit, moi, si demain, je voyais quelqu'un... Bah, par exemple, je vais prendre l'exemple de Claire. Claire, aujourd'hui, permet de générer davantage de revenus et permet d'avoir davantage de deals, de marques qui l'approchent qu'un type ou une nana qui va avoir 700 000 abonnés sur TikTok. Alors qu'aujourd'hui, elle est suivie par 20 000, 30 000, quelque chose comme ça. On est sur une audience d'un peu moins de 50 000 personnes. Mais alors, je peux te dire que les mecs et les nanas qui suivent Claire, ils la suivent religieusement. Et ça, c'est hyper, hyper important, tant sur la manière dont tu vas réussir à financer ton média et ton activité médiatique, mais aussi sur ta durabilité. Parce qu'aujourd'hui, je vois des mecs et des filles percer du jour au lendemain sur TikTok, sur une valeur ajoutée qui est hyper diffuse. On ne comprend pas réellement la ligne éditoriale. Et c'est le deuxième conseil que je donnerais, c'est cultiver une audience de niche, mais... cultiver d'abord une audience et travailler sur la récurrence de vos abonnés, la manière dont ils vont consommer régulièrement vos contenus. Et puis de l'autre, c'est trouver un passion point et une ligne éditoriale suffisamment forte pour faire en sorte que l'apport que vous allez amener est absolument différenciant et que vous serez le seul ou la seule à pouvoir faire ça aujourd'hui. Et donc, bah là-dessus, ça demande une vraie introspection personnelle de se dire, voilà, qu'est-ce que mes proches me reconnaissent ? Est-ce que je suis bon pour bricoler ? Est-ce que je suis bon ? Parce qu'en fait, aujourd'hui, on peut parler d'absolument tout sur Internet. Et ça, je trouve ça fou. Il y a 5 ans, les sujets étaient encore plus limités qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, moi, je suis un type extraordinaire qui fait de la rénovation de maison. Et j'adore le suivre, alors que je suis nul en bricolage, mais je le regarde avec beaucoup d'attention. Je suis Marc, qui est, encore une fois, agriculteur, premier agrituber de France, trop fort, 350 000 abonnés. Mais il parle avec une telle précision des semences qu'il va faire, des récoltes qu'il va faire, de pourquoi il choisit tel outil de moissonneuse-batteuse et pas un autre. Alors, j'y connais rien, moi, en agriculture. Mais
t'as envie de le suivre, t'es embarqué.
Voilà, je suis embarqué par le truc. Donc, aujourd'hui, il y a de la place pour tout le monde. Il y a des plateformes qui sont plurielles. Et aussi, et ça, c'est très important, et c'est une vraie chance, des tonalités qui sont diverses et variées. Vous êtes à l'aise avec simplement votre voix, vous n'avez pas envie de vous montrer, il y a le podcast. Vous avez envie de faire des contenus longs, pas forcément scriptés, vous avez une bonne interaction, une bonne capacité d'improvisation, il y a le live sur Twitch qui vous attend. Il y a mille et une manières de créer aujourd'hui, donc foncez.
J'adore. Quelle belle conclusion. Merci, Gaspard.
Merci à toi.
Salut.
Salut.
Alors, qu'avez-vous pensé de cet épisode ? Le profil de Gaspard détonne et son franc-parler est rafraîchissant. L'économie des créateurs est une nébuleuse qui peut paraître mystérieuse vue de l'extérieur, mais qui annonce un changement de paradigme dans l'univers du marketing. Désormais, le succès est étroitement corrélé à la capacité à incarner un message, des valeurs, une passion, et à communiquer ces derniers à une audience pour la fidéliser dans la durée. Les créateurs l'ont bien compris et rien ne semble pouvoir arrêter leur essor. Reste aux marques de s'adapter à ces nouveaux codes et à créer des partenariats gagnant-gagnant pour se rapprocher de leurs audiences. Je vous laisse là-dessus et je vous dis à très vite dans The Storyline.